télécharger notre application dw.com/appli.
Écoutez, il faut remettre ce que vous dites dans un contexte plus large. Il faut savoir que tout ceci se fait dans le contexte d'une amélioration du partenariat entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et dans ce cadre plus global, on est passé du G7 au G20. Et dans le cadre du G20, un certain nombre de pays africains sont invités à participer ou à discuter. Ne vous faites pas d'illusions, le rapport de force n'a pas beaucoup changé. Il n'empêche que maintenant, au moins, la voix africaine, elle est entendue. Au départ, il n'y avait pratiquement que, essentiellement, les représentants de l'Union africaine et quelques chefs d'État. Ça s'est élargi. Et c'était resté public, gouvernement et gouvernement. Rapidement, les pays occidentaux, que ce soit volontaire ou pas, constatent que leur contribution à l'aide au développement, qui aurait dû être de 0,7% ou plus, n'a jamais atteint ce niveau-là, à part les pays scandinaves. Et donc, ils se sont aperçus que le développement souvent était soutenu par le secteur privé, souvent occidental, et de plus en plus maintenant international, notamment asiatique, voire même Amérique latine. Donc, le développement, le principe du développement est soutenu d'abord par le secteur privé. Et c'est ça qui a fait le changement stratégique de l'ensemble des pays occidentaux, dont ceux du G20, vers la participation du secteur privé dans les activités du développement. Si vous n'avez pas ce contexte, vous ne comprenez pas. Donc pour l'Allemagne, plus spécifiquement, l'Allemagne avait choisi d'aller vers ce qu'ils appelaient le plan Marshall pour l'Afrique. Et ça n'a pas été une réussite. Et donc l'Allemagne a préféré se focaliser sur le bilatéral et non pas quelque chose de plus multilatéral. Parce que, par exemple, ce plan Marshall n'a pas tout à fait été soutenu en Autriche ou dans d'autres pays, notamment la France. Donc l'Allemagne a choisi le compact pour l'Afrique que vous êtes en train donc de discuter et qui a donné cette réunion. Mais il y a un certain nombre de règles. La règle est la suivante. Nous allons travailler pour soutenir le développement par un partenariat entre les structures occidentales, gouvernement, en partenariat avec les entreprises souvent transnationales du pays, donc allemand, et du côté africain, nous travaillons aussi avec le gouvernement africain, qui normalement devrait aussi proposer un certain nombre d'entreprises du secteur privé pour les accompagner. C'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre ce qui s'est passé hier à Berlin. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait réellement? Ça, c'était le contexte qui reste valable et pour lequel ils ont annoncé donc la somme d'argent que vous venez de dire. Est-ce que ça est l'équivalent d'un plan Marshall? Certainement pas. C'est une ligne de financement. Et pour y avoir droit, vous devez, vous, État africain, proposer un certain nombre de choses. Ils parlent d'appropriation par les États africains. Il ne faut pas se tromper sur les mots. Il s'agit bien d'un programme plutôt bilatéral allemand vers l'Afrique. Et ce programme profite d'abord aux investisseurs allemands. C'est pour ça que vous avez notamment beaucoup de représentants ou des gens qui participent à l'Africa Verein, qui est un de vos grands groupes où vous avez les multinationales allemandes.
Oui, notamment Volkswagen.
Vous verrez que chaque chef d'État était accompagné avec une multinationale ou une transnationale allemande. Ce qui pose un problème. Est-ce qu'une transnationale allemande, à côté d'un chef d'État africain, n'a pas telle ou telle influence sur ce chef d'État en question? Pour le Togo, de mémoire, je crois que c'était Siemens, et on peut aller comme ça pour chacun des chefs d'État. Un dernier point pour expliquer le départ, sachez aussi que pour la gestion, c'est une co-gestion. Il y avait l'Allemagne, et du côté africain, il y avait l'Afrique du Sud, en tout cas pour le moment. Est-ce que ça va évoluer? On verra ça. Dans la pratique, les financements sont essentiellement allemands. Ça, c'est pour l'introduction. C'est très important parce que si vous ne comprenez pas ça, la suite ne peut pas être comprise. Et donc, quand les chefs d'État viennent, ils ont en fait eu des activités de préparation où ils ont identifié au moins un ou deux ou plusieurs projets, mais au moins un, pour lequel un partenaire privé allemand pourrait apporter un complément, soit en investisseur, soit tout simplement en exécutant un projet X, prenons l'énergie, vous allez donc fabriquer une usine thermique, par exemple c'est le cas du Togo, et pour, en guillemets, ce qui pourrait bloquer ou permettre d'aller plus vite, alors l'Allemagne pourrait, en tant que gouvernement et ses institutions, apporter un soutien, un complément ou favoriser l'environnement des affaires, notamment dans les pays africains.
Oui, donc en français facile, l'Allemagne ne va pas signer un chèque d'un milliard d'euros pour soutenir les investisseurs privés de ces pays africains.
Non, vous avez raison de dire ça comme ça, mais ça ne se passe pas aussi comme ça. Vous venez de voir qu'il y a déjà quatre protagonistes. Il y a le gouvernement allemand avec ses institutions, il y a le secteur privé allemand avec les multinationales allemandes, il y a le gouvernement africain en tant que gouvernement, et vraisemblablement derrière ce gouvernement, des entreprises africaines qui voudraient avoir la sous-traitance. Voilà encore. Donc, pourquoi j'insiste sur ces quatre grands protagonistes, c'est que on a oublié l'essentiel, les populations. On n'est pas sûr encore pour le moment que le résultat de tout ça va profiter aux populations, notamment en termes d'emploi, emploi décent, salaire et pouvoir d'achat, et encore moins si ça va durer. C'est tout le problème. Alors bien sûr, ces projets officiellement doivent être sortir du plan de développement ou stratégique d'un pays. Donc c'est facile à faire. Vous dites que vous voulez faire de l'énergie, tous les pays ont quelque chose sur l'énergie. Vous voulez faire quelque chose dans le système informatique, tout le monde a quelque chose là-dedans. La pratique est quand même différente. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on aille dans le détail pour que vous compreniez bien ce qui risque de se passer, parce que je pense qu'il y a beaucoup de naïveté du côté du gouvernement allemand sur le résultat de l'approche.
Alors de quoi avez-vous peur?
Prenons un exemple, c'est plus facile. Je n'ai peur de rien du tout. Moi, je suis quelqu'un qui aime l'efficacité, et il faudrait que les approches, quand elles viennent, elles permettent l'efficacité. S'ils vont sur cette approche aujourd'hui, c'est que les approches anciennes, notamment de l'Allemagne, ont plutôt donné de l'inefficacité. Prenez les GTZ, prenez toutes les structures d'appui au développement, ça finit par faire soutenir des ONG, des choses comme ça à la marge, qui n'ont pas vraiment créé de l'emploi, en tout cas pas des emplois durables en Afrique. Il faut se dire les vérités aujourd'hui. Et donc, la nouvelle approche, elle est bonne. Il faut soutenir ce que fait Madame Merkel dans le principe. Le problème est que ils ne font pas l'effort d'aller voir ce qui se passe sur le terrain. Et là, nous allons dans le détail. Prenons le cas du Togo qui est venu avec un projet d'électrification. Ils ont un gros problème d'améliorer, d'augmenter la capacité énergétique dans ce pays, ce qui est absolument normal pour la plupart des pays africains. Et il est question de mettre en place une centrale thermique dans ce pays. Et apparemment, c'est affecté à Siemens. Qui peut le faire ? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir qu'au Togo, il y a déjà eu un ou deux projets comme ça, notamment avec les Américains, et qui a été un échec assez important. Un échec, ça veut dire que ça a augmenté l'endettement de ce pays. Vous m'avez demandé de quoi j'ai peur. J'ai peur de rien. Je constate seulement que l'endettement, une partie de l'endettement public de l'État togolais, est liée justement à l'échec d'un projet dans l'énergie, et justement thermique. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire une usine thermique, et ils le font à partir du gaz. Le Togo n'a pas de gaz. Donc ça veut dire que le gaz va venir d'où? On va l'importer depuis le Nigeria, il n'y a même pas de pipeline de gazier qui marche pour le moment. Donc vous voyez qu'on rentre dans des projets qui sont inscrits dans le programme de développement du pays en question, qui devrait normalement améliorer la situation dans le pays, et qui en fait est un projet en termes d'études sérieuses, ne tient pas la route. Parce que ce gaz n'étant pas là, très rapidement, cette centrale thermique va falloir l'adapter pour y mettre donc de l'essence, du pétrole. Et le pétrole, vu les prix qui augmentent, vous allez voir que ça va devenir un gouffre financier pour le gouvernement. Et je ne parle pas maintenant de la redistribution de cette énergie au niveau du pays lui-même, parce que la plupart des entreprises africaines, togolaises en tout cas dans le cas particulier qui vont l'avoir, regardez comment ça se passe dans les appels d'offres au Togo, il n'y en a souvent pas. Il y a ce qu'on appelle du gré à gré. Notamment pour la sous-traitance. Donc ça va être encore des structures que souvent sont liées au gouvernement direct ou indirect. On n'est pas là pour faire des accusations, on est là pour expliquer. Et donc, vous comprenez que ça va tomber sur des gens dont la qualité pour faire le travail de sous-traitant peut-être n'est pas à la hauteur. Et on n'a pas les garanties que ces choses-là vont bien se faire. On sait seulement que le contrat, entre guillemets, va revenir vraisemblablement à Siemens, pour le citer, ou à une structure allemande pour les autres cas. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme s'il s'agit d'une structure qui va devenir très rapidement bureaucratique, vous voyez tout le processus bureaucratique qui est derrière. Alors ce secteur privé, en fait, allemand, cette fois-ci, profite du rapport de force allemand sur ce dossier pour obtenir ces contrats. Et en filigrane, c'est qu'on essaie en fait de prendre des contrats là où d'autres sont plus compétitifs, ou qu'ont plus de facilités financières, comme la Chine par exemple, ou d'autres pays comme les pays des Émirats arabes qui arrivent aussi dans le secteur actuellement. Donc, ne croyez pas qu'il s'agit d'un plan Marshall, c'est ce que je veux surtout dire au départ. Et deux, on n'est pas du tout sûr d'un résultat efficace en fin de parcours. Maintenant, le risque existe en entreprise et tout le monde doit l'accepter. Encore faut-il le calculer et le dire aux populations. Maintenant, venons sur l'essentiel. Est-ce que ça va créer essentiellement de l'emploi? Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. C'est tout le problème. C'est-à-dire que ça peut faire de l'argent, mais ce n'est pas sûr du tout que ça crée de l'emploi. Et du coup, tout le processus de la corruption africaine va se mettre en route. Des appels d'offres qui ne sont pas faits, des gré à gré qui sont donnés à des entreprises qui ne sont pas toujours très sérieuses et qui, du coup, ne vous donnent pas le résultat ou le donnent avec un retard extrêmement important. Et du coup, un endettement pour le pays qu'il va falloir distribuer sous forme de taxes aux populations. Et donc, le pouvoir d'achat en fin de parcours pour la population, ce n'est pas si intéressant que ça. Donc, ce que je reproche fondamentalement à cette approche-là, c'est que la partie de la population concernée par les résultats n'est pas prise en compte, la société civile de manière générale, et plus particulièrement les populations.
N'empêche...
Mais non, sur la réalité, c'est important que le secteur privé ne prenne le devant. Mais pourquoi ce secteur privé ne peut pas faire le boulot normalement? S'il y a 1 milliard qui sont mis de côté, et encore faut-il le distribuer pour les 12 États en question, en sachant que d'autres sont dans la file d'attente, hein. Donc les 1 milliard, je n'ai pas l'impression que ça va augmenter. Donc ceux qui vont arriver vont devoir se partager ça. Alors diviser déjà par 12, on n'est plus dans les 1 milliard, hein. Ça divise. Hein. Et quand vous divisez, regardez le coût d'une usine, est-ce que c'est cet argent-là qui va le faire? Non. Donc c'est l'investisseur allemand qui va effectivement prendre des risques et qui va vous demander, entre guillemets, qu'il soit couvert pour son investissement. Et je pense qu'une partie de cet argent risque plutôt d'aller vers les garanties. C'est-à-dire que si quelque chose va mal dans le pays pour telle ou telle raison, valable ou pas valable d'ailleurs, la garantie engagée par l'État allemand va permettre de couvrir partiellement la perte que l'entreprise allemande aura eue dans ce pays-là. Je vois mal cet argent venir couvrir la perte qu'aura une entreprise africaine, togolaise en particulier, dans le cas particulier où cette centrale thermique à gaz ne fonctionnerait pas d'ici 2 ans ou 3 ans. Vous voyez déjà comment les choses sont en train d'évoluer.
Oui, mais est-ce que ce n'est pas tout de même mieux que l'aide publique au développement? Là, c'est du concret quand même, non?
Bien, non, l'aide publique, il ne faut pas les opposer. Il ne faut pas les opposer. Il faut plutôt dire que ce sont des acteurs qui sont en train d'évoluer. L'aide publique au développement dont vous parlez avant, ça venait directement de l'État. Et donc l'État n'a pas vocation à aller faire de la production, de la gestion, du management. C'est pour ça que ça a échoué d'ailleurs. C'est comme les Nations Unies. Les Nations Unies n'ont pas vocation à aller faire des opérations. Donc ils se contentent à la marge de faire un certain nombre de choses qui coûtent beaucoup d'argent et qui n'ont pas de résultats efficaces. Ça ne veut pas dire que c'est inutile, mais ce n'est pas efficace. Surtout pour les populations. J'insiste, moi, sur les populations. Il faut que les populations trouvent un compte dans cette histoire. Il faut que le cas togolais, ils aient de l'électricité qui fonctionne à un rythme normal, qui n'ait plus des coupures intempestives, que le coût que l'énergie est mise à disposition des populations soit acceptable pour le pouvoir d'achat local, et qu'en fait, ça crée de l'emploi. Le reste, la distribution, etc., ça va se faire par les techniciens, notamment les sociétés qui se sont engagées là-dedans. La réalité, c'est qu'à un moment de ce processus, ça ne fonctionne pas. Et ça a déjà eu lieu, c'est ça qui m'étonne pour le cas togolais. Ça a déjà eu lieu.
Donc dans le cas togolais, vous craignez justement un surendettement de l'État?
Je crois surtout d'abord que ça ne va pas être efficace. Parce que quand on fait une usine en disant que ça va se faire au gaz et le pays n'a pas de gaz, la matière première qui est votre intrant n'étant pas là, et le coût peut varier assez fortement sur les marchés internationaux, vous prenez un risque inutile dès le départ. C'est comme si vous voulez faire, je ne sais pas moi, les 24 heures du Mans en course automobile et que vous y arrivez avec votre vélo, quoi. Ça n'a pas de sens. C'est ça qui pose le problème dans le cas que je vous ai cité. Il y a un problème de départ dans le choix du projet. Si le choix du projet avait des objectifs vraiment de soutenir cette population dans nos pays, ce serait beaucoup mieux. Et deux, le problème de l'influence. Vous croyez que l'État togolais peut tenir en face à une multinationale comme Siemens, quand Siemens va imposer telle ou telle ou telle approche? Mais écoutez, il ne faut pas rêver non plus. Peut-être l'Afrique du Sud a ce moyen-là, mais les petits États africains, en termes économiques, ne le pourront pas. Donc à moyen et long terme, c'est des influences directes sur la souveraineté de décision de ces gens-là. Et du coup, souvent, ça favorise la corruption. Et je n'ai pas encore parlé des dividendes. Quand vous allez faire de l'argent et que le projet est rentable, et même s'il n'y a pas de résultat, l'argent sort du pays, n'est pas réinvesti, et ça va souvent où? Il faut se poser la question. Les comptes offshore, où ça va venir en Allemagne? Est-ce que ça va être taxé? Il faut aller dans tous ces éléments-là. Voilà. Alors, pourquoi ces pays viennent? Ça pose le problème. L'Allemagne, quitte l'aide au développement pour venir dans une approche, je dirais, quadripartite, là, intéressante avec le secteur privé, mais devrait faire attention aux garde-fous, parce qu'elle pourrait, en fait, sans le vouloir, augmenter la corruption, et surtout augmenter la migration. C'est-à-dire que, parce qu'ils vont échouer, et parce qu'ils ont déjà échoué aussi, ils contribuent à ce que les gens quittent les pays et viennent en Europe, et plus particulièrement en Allemagne. Et c'est ça le fond du problème. C'est qu'à vouloir soutenir des régimes politiques cette fois-ci, je quitte le champ économique pour le champ politique, des régimes politiques qui sur le plan de la démocratie n'ont pas vraiment réussi, et qui sur le plan de la sécurité des populations et la liberté des populations sont un échec, qui en fait au niveau de ce que je pourrais dire, de faire en sorte que les populations ont un mieux-être après 15, 20, 30 ans, 40 ans de gouvernance, il n'y a pas de résultat, et que l'Allemagne a choisi de ne pas faire la différence entre les deux. Et c'est une grosse erreur de Mme Merkel. Et je le dis bien tout haut sur Deutsche Welle. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas comparer des pays qui ont fait l'effort d'avancer sur le plan démocratique et qui du coup ont, vont contribuer à réduire les migrations vers les pays du Nord avec des pays où vous avez de l'autocratie, voire de la dictature, voire le système judiciaire qui ne marche pas, des populations qui ne sont pas contentes du tout. D'ailleurs, regardez bien les manifestations. Les gens qui sont venus manifester en Allemagne ont manifesté contre le Togo. Ils n'ont pas manifesté contre l'Afrique du Sud, par exemple. Ils n'ont pas manifesté comme le Bénin, par exemple. Alors que les deux pays sont voisins, le Bénin et le Togo. Pourquoi ? Parce que c'est une démocratie. Et quand vous regardez les chiffres, la migration béninoise en Europe, elle est en train de diminuer. Les gens rentrent chez eux. C'est ce qu'ils veulent, donc, les Occidentaux. Pourquoi l'extrême droite monte en Allemagne ? C'est pour ça que le sujet que vous avez posé, il est intéressant si on veut rester sur les détails. Mais quand vous le prenez dans un cadre géostratégique et géopolitique et géoéconomique, vous voyez bien qu'il faut faire très attention de ne pas avoir le résultat inverse de ce que voulait la politique originelle du G20 et du compact pour l'Afrique. C'est pour ça que je parle d'un compact pour l'Allemagne, en réalité, parce que ça va soutenir les multinationales, et je ne suis pas garanti que, en fait, ce que eux vont gagner, ça ne va pas se transformer en dette pour nos pays, et la dette venant augmenter. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard que le Fonds monétaire international est aussi dans ce circuit. Parce qu'au cas où l'endettement va augmenter, le Fonds monétaire international devrait, entre guillemets, mettre les garde-fous, faciliter les petits crédits budgétaires à l'État pour que ça rentre dans les caisses du secteur privé. Et ça aussi, ça pose un problème. Où est la souveraineté alors de ces pays dans leurs décisions ? Et quel est le bénéfice en réellement pour les populations ? C'est ça qui est important d'analyser. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire. Je dis que les garde-fous, pour que la réussite et l'efficacité soient au rendez-vous, ne sont pas là. Et deux, il y a un mélange des genres entre des gens qui sont démocratiques en Afrique, des pays qui ont organisé et un passé démocratique, le Ghana, le Bénin, par rapport à un pays comme le Togo, et je ne veux pas citer d'autres pour ne pas faire trop de jaloux. Et ça pose problème. Ça pose problème parce que le niveau de corruption dans ces pays où il n'y a pas la démocratie, qui donc crée l'immigration et donc les gens viennent de plus en plus dans le monde occidental, est beaucoup plus important. Donc si vous soutenez des gouvernements qui vont dans le sens où tout le travail qui est fait avec ce secteur privé, qui est louable, qui est vraiment louable, mais ne donne pas le résultat efficace attendu, ben vous avez un échec. Et du coup, cet échec-là se transforme en des migrations, en des manifestations à gauche et à droite dans les pays africains, etc. D'ailleurs, attendez-vous à avoir des manifestations dans les pays comme le Togo. Parce que cette histoire qui s'est passée en Allemagne, c'est comme si on donnait et on soutenait une autocratie au Togo. Vous voyez le résultat. Et ça, les investisseurs allemands, les partenaires privés du secteur privé allemand, le Africa Forum, ne veut pas le voir parce qu'ils ne regardent que leur profit. Ils ne sont pas intéressés par le reste. Et donc, on mélange tout, des pays autocrates, dictateurs, avec des pays démocratiques. Ce n'est pas vrai. Alors qu'au départ, l'idée, d'après ce que j'ai pu lire de Mme Merkel, et voire même de l'Allemagne en général, c'était de soutenir principalement, justement, les pays démocratiques. Et M. Obama, quand il était président des États-Unis, il avait fortement insisté dessus. Il a fait une mission, est arrivé où ? Au Ghana, parce que c'était démocratique. Il a mis ça en avant. Et quand je dis démocratique, c'est pas l'individu, c'est pas seulement le régime politique. Les institutions. Vous savez que ce sont les institutions qui font un pays. Et si les institutions arrivent à fonctionner de manière souveraine, autonome, indépendante, vous avez beaucoup plus de chances que le secteur privé, justement, fasse des bénéfices. Personne n'est contre le bénéfice. J'ai moi-même une entreprise. Qu'est-ce que je fais ? J'aime que l'environnement me soit favorable et prévisible, justement. Donc il n'y a rien à mettre en cause le fait que les Allemands prennent du secteur privé, des multinationales, pour aller dans tel ou tel pays africain. Il n'y a rien, au contraire, c'est très bien. Le problème est que les Allemands fassent un tout petit peu de bilan sur leur passé en Afrique. Je vous ferai remarquer qu'il y a une dizaine, quinzaine d'années, les Allemands faisaient comprendre qu'ils n'avaient pas besoin de cette Afrique. Ils le faisaient comprendre. D'ailleurs, pour ça qu'ils sont si peu, si absents de l'Afrique aujourd'hui. Parce qu'ils ont fait une impasse stratégique sur ce continent et ils sont partis en Asie. Et aujourd'hui, ils ont le retour de bâton parce qu'ils ont envoyé leur transfert de technologie essentiellement là-bas en Chine, qui a fabriqué mieux qu'aujourd'hui, notamment dans le rail, le train et autres, et qui l'exporte. Et comme ils ont du monde, ben, ils vont 10 fois plus vite. Ils vont 10 fois plus vite. Et c'est pour ça que les résultats sont là avec la Chine, quelle que soit la Chine publique ou la Chine du secteur privé. Et en termes de proposition, ben c'est très difficile quand vous faites un appel d'offres ben que ce soit quelqu'un d'autre que la Chine qui le gagne. Regardez la Banque africaine de développement, quels sont l'essentiel des contrats en infrastructure, c'est la Chine. Parce que ben, quand vous faites un appel d'offres normal, c'est le meilleur qualité et le moins disant en termes d'argent qui gagne. Ben, vous allez systématiquement avoir la Chine sur votre liste. Et de moins en moins l'Allemagne, pourtant, les technologies, le savoir-faire, les qualités, les normes sont parmi les premières du monde. Et ils sont trop chers. Et comme on peut faire l'équivalent ailleurs, mais on va faire l'équivalent ailleurs. Donc, il faut une structure comme ça, que j'appelle une sorte d'appel d'air, qui va permettre, quand même, à quelques multinationales de gagner des contrats. Maintenant, allons sur le fond du sujet. Où sont les petites et moyennes entreprises allemandes ? Pourtant, ce pays n'a grandi, ne vit et ne fonctionne que grâce aux entreprises moyennes. Quand je dis entreprises moyennes, c'est plus de 500 personnes ou plus, en gros. Où sont les toutes petites entreprises allemandes ? Vous savez, quand il y a une mission allemande dans le secteur privé, généralement, vous avez tout ce beau monde dans l'avion. Grande entreprise, moyenne entreprise, petite entreprise. Ce n'est pas le cas pour la France, par exemple, souvent. Mais du côté africain, posez-vous la question. Ce sont les gens qui tournent autour du pouvoir. Ce ne sont pas des gens, entre guillemets, indépendants sur le plan d'un business. Et l'environnement, souvent, ne le permet pas. Donc, sont-ils en train de favoriser un groupe d'élites autour du pouvoir africain qui se sont enrichis beaucoup et qui ne font pas de redistribution vers les populations en termes de pouvoir d'achat, en termes de salaire, tout simplement en termes de résultats? Et on l'a vu avec les États-Unis. On a dit ça dans le programme AGOA pour les Américains, qui ont d'ailleurs organisé, il y a à peine un an et demi, une grande réunion au Togo, justement, pour développer...